Salut Sylvain.
Salut.
J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravi de te recevoir sur ce deuxième épisode de la saison 2 de Stackcast. Donc, tu connais le principe de Stackcast un petit peu ?
Complètement.
Ok. Donc, le but pour moi et le but pour les auditeurs, c'est de découvrir des outils qui sont utilisés par les acteurs de la tech pour voir un peu quelles sont les tendances et dégager un peu... Une ligne commune à tous. L'idée, c'est d'être très concret. Et puis moi, mon job, ça va être de faire des show notes absolument magnifiques avec, avec des liens qui pointent super précisément sur des apps, des bouquins, enfin tout ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Alors justement, Sylvain, donc tu commences dans la coiffure, c'est ça ? Enfin, dans la cosmétique ? Ou dans la beauté ?
Dans les bijoux pour cheveux, à une époque où YouTube n'existait pas.
Waouh.
Facebook non plus. Et où du coup, les modèles de vente étaient assez différents par rapport à aujourd'hui. Pourtant, ce n'était qu'il y a 15 ans.
Ouais, 15 ans, c'était avant YouTube, avant Insta, avant tout ça, quoi. Ouais.
Ouais, du coup, des méthodes beaucoup plus traditionnelles pour la vente. Pour autant, il y avait déjà un peu de web, il y avait déjà un peu d'e-commerce, mais c'était vraiment balbutiant.
Ouais.
Et quand je regarde en arrière ce qu'on faisait, c'est assez hallucinant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et comment on a évolué et à la vitesse à laquelle on a évolué.
Ouais.
C'est fou.
C'est quoi, 15 ans c'est, on est dans l'époque de... Ouais, c'est même pas le début de Facebook, quoi. C'est, on est...
Non, il n'y a pas encore Facebook. Donc du coup, c'est du cold call, de la voiture. On avait une voiture à notre nom et on se déplaçait chez les clients, on faisait des tournées.
D'accord.
Très, très difficile, mais même des trucs cons de montrer des coiffures avec nos bijoux.
Ouais.
On ne pouvait pas faire de vidéos. Enfin, pour diffuser des vidéos, c'était assez complexe. Et pour les rendre accessibles et visibles,
ah bah oui.
C'était très simple. Donc, on était très bloqués par ce genre de choses toutes simples, en fait, qui paraissent aujourd'hui évidentes.
Mm-hmm.
On pouvait créer une chaîne YouTube pour montrer toutes les coiffures qu'on pouvait faire avec nos bijoux. Notre site e-commerce, pour le faire connaître... Alors, AdWords, à l'époque, devait exister,
ouais.
Mais n'était pas utilisé. Donc, on aurait pu faire des choses. Et là, j'ai fait une erreur de ne pas m'y lancer.
D'accord.
Mais en nombre de visites sur mon site pour développer ça, c'était monstrueux. Mais à l'époque, on était en ADSL aussi, on n'imagine pas à quel point c'était.
Oui, c'est ça. C'est, tout ça, ça a pris de l'ampleur quand Free a débarqué avec son forfait en 2004-2005.
Oui, c'est un peu ça. C'est, là, on pouvait le faire test et ça devenait agréable d'y aller.
Ouais.
Avant, ce n'était pas le cas. Tout était long. Tous les sites web qui s'ouvraient, ça prenait des plombes. Donc pour faire du e-commerce, c'était chiant. On n'avait pas des smartphones comme ça qui allaient sur Internet toute la journée aussi.
Donc, t'y allais avec tes dents, chercher tes clients.
Ouais. Et là, le meilleur outil qu'on ait trouvé, c'est un concours pour nos revendeurs.
Mm-hmm.
Avec truc tout con, une bouteille de vin pour 10 présentoirs de bijoux vendus.
D'accord.
On vendait à des grossistes en coiffure qui vendaient à des coiffeurs. Et en fait, on a découvert que les commerciaux des grossistes en coiffure étaient incentivés à mort.
Mm-hmm.
Par L'Oréal et les autres grandes marques de la coiffure.
D'accord.
Qui leur offraient des voyages aux Caraïbes si c'était le meilleur vendeur français.
Oula.
Et nous, on était 312e produit du catalogue.
Ouais.
Et on n'offrait rien. Donc les gars, ils avaient beau le trouver sympa. Ils n'avaient aucun intérêt à le vendre. Et du coup, on leur a simplement mis en place un petit concours où, quel que soit leur classement, de toute façon, ils avaient des cadeaux.
Ouais.
En fonction du nombre des ventes. Et pour le meilleur, il y avait... un séjour en Tunisie pour deux. À l'époque, ça coûtait 600 euros la semaine pour deux.
Ah oui.
Et ce petit concours a fait que il y avait trois mecs qui se battaient en tête, qui se défonçaient, qui nous appelaient tous les jours pour savoir où ils en étaient.
Ouais.
Évidemment, on leur disait qu'ils n'étaient jamais le premier ou qu'ils n'étaient pas loin du premier, en tout cas.
Ouais.
Les gars, à eux trois, ont sorti 120 000 euros de chiffre d'affaires en un mois.
Waouh. Ah oui.
Et on a... tripler le chiffre d'affaires sur la période où on a fait le concours.
Ah, comme quoi, les incentives comme ça, les petits... Ouais, c'est...
C'était con, c'était une bouteille de vin, c'était un voyage en Tunisie, c'était une...
Ça a mis le feu, quoi.
Pour faire la conduite sur glace, enfin, c'est des trucs cons.
Ouais.
Mais les gars ont trouvé ça... Enfin, c'est ça qui les motivait.
Ouais.
Donc, on a découvert l'affiliation, les incentives pour les forces de vente externes.
D'accord. Et cette histoire, du coup, ça vous a amené jusqu'où ?
Ça nous a amené jusqu'à fin 2008 où on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, on est rentable.
Ouais.
Ça commence à être un peu sympa parce que ça a été long et compliqué les premières années.
Ouais.
Sachant qu'on était sur un produit que déjà il a fallu le faire fabriquer et qu'on a vécu toutes les enfers du monde, enfin on a vécu tous les enfers du monde à le fabriquer d'abord en Asie. Parce que les seuls qui ont dit oui pour la fabrication, c'était des Chinois. C'était pas du tout des Français qui nous ont dit la merde, ça marche. On a pu rapatrier la prod en France qu'au bout de 3 ans, mais on avait perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de malfaçons, beaucoup de problèmes avec nos produits. Et en plus, je n'étais pas moi un spécialiste de la production et j'ai vraiment fait plein d'erreurs là-dessus. Donc la première année, on commence à s'éclater, sauf que fin 2008, je ne sais pas si tu te souviens, c'était la crise des subprimes. Et les coiffeurs, assez intelligemment, ont dit « notre réseau, on la garde, on ne dépense plus rien pour payer nos salariés, on ne veut pas les virer pour l'instant et qu'on ne sait pas comment ça va redémarrer. » Donc 2009, notre carnet de commandes a fondu, il a chuté de 60%.
Waouh, ok.
Et il y avait un gros événement tous les ans, le Salon mondial de la coiffure et de la beauté, le MCB, qui se tenait début septembre, porte de Versailles. Et sur ce salon, on faisait entre 25 et 30% de notre chiffre annuel en 3 jours.
Ouais.
Sauf qu'en 2009, il a été annulé faute d'exposants.
Ouais, d'accord.
Et quand on nous annonce ça en mars-avril, plus que notre carnet de commandes a chuté, qu'on voit les fêtes de mariage, les mariages qui arrivent et qu'on n'arrive pas à vendre. Un, la motivation n'est pas là. Deux, les 4 années de pertes d'avant commencent à coûter cher parce qu'il y a des dettes et qu'on ne peut pas rembourser, puisque cette année-là, on est encore parti pour faire des pertes. On ne sait pas si ça va repartir, qu'on est mort. Et ça s'est du coup malheureusement amené au tribunal avec une liquidation.
Ouais.
Un truc vraiment, vraiment pas marrant à vivre, mais qui nous a permis de passer à autre chose.
Est-ce que tu dirais que cette expérience a vraiment forgé l'entrepreneur que tu es aujourd'hui?
Ouais, carrément, parce que j'ai découvert à peu près qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je ne savais pas faire du tout, où j'étais complètement nul, et qu'il fallait absolument plus que je me voile la face comme quoi j'étais capable de le faire.
Et alors, j'ai juste une petite question sur l'e-commerce. Aujourd'hui, tu refais la même chose. Est-ce que, avec les outils qui existent, de dropshipping, de tout ce qu'on peut voir, est-ce que tu aurais plus de... Alors, c'est bête parce que tu viens de me dire tout à l'heure que si il n'y avait pas YouTube et tout, donc j'imagine que la réponse est oui. Mais mine de rien, est-ce que quelqu'un qui veut se lancer, comme toi, sur un lancement de bijoux, même... Beaucoup de jeunes qui veulent lancer des lignes de vêtements en ce moment, de parfums. Est-ce qu'il y a toujours autant de choses trap ou bien exécuté, il peut arriver à être successful?
Ma seule erreur est clairement pas le fait qu'il n'y ait pas les bons outils web à l'époque pour construire le produit. Il y a un premier gros souci de cash où on met 1 000 euros au capital de la boîte, ce qui n'était pas dégueulasse à l'époque.
Ouais.
On arrive à emprunter pas mal de sous et d'être beaucoup, beaucoup aidé.
Oui.
Sauf qu'on. Là, une des premières conneries, c'est qu'on pose un brevet mondial sur le truc. Ça coûte 80 000 euros.
Waouh! Ah oui, d'accord.
Qui a été financé et pas faire de marketing avec ces 80 000 euros, qui en plus a rendu jaloux un concurrent qui vendait d'autres accessoires de coiffure, qui nous a du coup copié, mais qui nous a attaqué pour pas qu'on puisse l'attaquer. Ça a été une procédure qui a duré 3 ans avec un stress horrible. Ouais. Et l'argent perdu parce qu'il fallait payer un avocat pour se défendre. On a gagné à la fin, mais on a quand même perdu de l'argent parce que ça ne nous a pas tout remboursé, plus le temps et l'énergie qui était difficile à mesurer. Donc ça, c'est ce premier truc. Deuxième truc, la prod, on a choisi le mauvais partenaire, mais on voulait tellement y aller que de toute façon, on n'a pas assez sécurisé la fabrication de nos bijoux et on a eu plein de problèmes techniques dessus.
Ouais.
Et du coup, on a déçu un peu la clientèle sur les premières collections.
Si tu m'autorises, je posterai l'une des vidéos que tu avais faites, je ne sais plus où, mais où tu expliques super bien dans cette conf les problèmes techniques chinois avec les retours de tes colis.
Aujourd'hui, j'en ris sur le moment, c'était pas très marrant.
Ouais, j'imagine que ça devait faire super flipper d'ouvrir tous ces paquets.
Du coup, je ne suis pas sûr que, même avec les outils aujourd'hui, même avec mon appétence à ça, je ne suis pas sûr qu'on aurait beaucoup plus réussi. De toute façon, j'avais besoin de faire mes conneries aussi, c'était aussi ma première boîte, j'avais 20 ans.
Ouais. Ah oui, d'accord. Oui.
Donc, bon, comme tu as dit, ça m'a forgé, ça m'a appris énormément de choses. Ce n'était pas marrant à vivre quand même. Hein. Franchement, je ne veux pas qu'on garde l'idée de échouer, c'est cool. Échouer, ce n'est pas cool du tout. Parce que les 6 mois qu'on suivi le truc, déjà, ma copine m'a largué parce que je savais plus ce que je voulais faire de ma vie. Deux, j'avais des dettes perso. Trois, j'étais un peu paumé et la confiance en moi, elle était à -10. Quatre, j'avais plus beaucoup de potes. Tant que t'es entrepreneur, t'as quand même plein de potes autour de toi et quand t'es plus entrepreneur, en fait, tu te rends compte que les gens ne sont plus trop là. Et 5, tu te demandes ce que tu vas faire de ta vie, parce que ça fait 6 ans que tu es chef d'entreprise
Ouais.
avec des salariés qui m'avaient appris énormément de choses, qu'ils avaient 35 ans en moyenne. Et là, tu te retrouves seul, 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 et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai un bon diplôme, donc je vais peut-être chercher du travail. En même temps, ça me fait chier les boulots qu'on me propose.
Ouais.
Et voilà, donc ce n'est pas une période marrante. Après, je suis très content de l'avoir vécu a posteriori.
Ouais.
Mais sur le moment, ce n'est pas drôle.
Et donc,
après, du coup, ça m'a forcé à savoir ce que je voulais faire,
ouais.
et notamment que finalement, je ne voulais pas être salarié.
Ouais.
Ce que je voulais, c'est m'éclater le matin, aller au boulot avec le père, me payer décemment, mais sans que ce soit des sommes folles. Je n'ai pas une ambition incroyable sur ma paye.
Ouais.
Je voulais bien payer, hein, mais sans viser les milliards que j'ai visés dans la première boîte.
Mmh.
Et que je crois en mon projet et que je sois fier de ce que je fais au quotidien.
D'accord.
Ça, c'était mes trois moteurs pour lancer une nouvelle boîte. Très, très simple, business plan de 2 pages, où j'ai mis ces 3 critères dedans.
D'accord.
Et je donnais des cours, en fait. Ce qui m'a fait ma thérapie de mon échec, c'est de faire des cours sur cet échec, d'expliquer mmh. chacune des erreurs et de les décortiquer, d'essayer de les aider, d'aider les étudiants en face à ne pas refaire les mêmes.
Ouais.
Et du coup, de me rendre compte que j'avais appris plein de choses et que j'aimais donner des cours. Donc, j'ai créé une boîte autour de l'enseignement, la formation, la pédagogie.
D'accord.
Parce que j'essaie de faire des cours différemment et j'adorais écrire. J'avais fait une bande dessinée pour expliquer aux collégiens ce qu'était la création d'entreprise.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, ce qui était marrant, on avait rajouté comme 11e étape. À la base, on avait 10 étapes.
Ouais.
Et juste avant de la lancer, on a rajouté la 11e qui est l'échec en disant bah, ça fait partie du truc.
Ouais.
Il faut s'y préparer potentiellement. Et donc, du coup, je me suis mis à écrire des bouquins, des livrets.
Et on est en quelle année là ? On est en
2009.
2009, ouais.
Et c'est comme ça que je crée Sido.
Oui.
Qui est devenue une boîte de conseils en formation, conseils en pédagogie.
D'accord. Donc, tu arrives, tu switches complètement de secteur. Par contre, tu t'appuies sur l'expérience passée pour faire cette agence de consulting en formation.
Ouais, en pédagogie à l'époque, on dit. Ouais.
D'accord. Et tu t'associes avec d'autres personnes sur cette société au départ ?
Au début avec Ludo, parce que Sido ça veut dire Sylvain Ludo.
D'accord.
Au bout d'un an et demi ou 2 ans, Ludo est parti et je
oui.
me suis associé avec les 2 premiers salariés.
D'accord.
Et voilà. Et là, la technique et les outils nous ont vachement aidés. Donc on
ah
se
oui.
lance, le cache, hein, parce que du coup, t'es pas très fier, donc tu ne montres pas trop sur les réseaux et tu vas plus comme avant être mis en avant partout.
Ouais.
Tu prends ton bâton de pèlerin, tu vas chercher les clients un par un et tu fermes ta gueule et tu bosses.
Ouais.
Sauf que fin 2011, il y a une nouvelle crise en Europe, la crise grecque.
Ah oui.
Mmh. Et la perte du 3e A dans notre score.
Ah oui. Ah oui. D'accord.
Et c'est pareil, c'est la cata. On va dire, on dit que la France va s'écrouler, que c'est la fin du monde. Et en même temps, j'étais tombé un peu amoureux des vidéos de TED, que je trouve assez passionnantes, parce que j'aime pas trop apprendre derrière un ordi, mais ces vidéos, le format arrive
ouais,
à me
scotch,
tenir
ouais.
emballé. Et l'une d'entre elles, je crois que c'est la plus vue d'ailleurs, c'est celle de Ken Robinson sur l'éducation.
Oui.
A été dessiné par l'association RSA Animates. Et j'avais trouvé cette méthode de dessin sur la vidéo assez dingue, parce que ça t'ancrait vraiment l'idée via le dessin dans la tête. Et si c'était un peu. Tu avais des soucis d'attention, bah là, le dessin te scotchait devant la vidéo encore plus.
Là, je vais essayer de la retrouver, comme ça je mettrai le lien. Ouais,
ouais je te l'enverrai, sinon vraiment, elle est géniale cette vidéo. Et là, côté un peu social, la boîte commence à gagner un peu d'argent, on grandit, mais on est 4, hein, enfin, c'est tout petit et c'est cool, la vie est belle. On dit, il faut qu'on explique ces modèles-là, moi je suis un passionné d'économie,
mm-hmm.
mais en 2011, pareil, il n'y a pas grand-chose au niveau média sur le web qui explique l'économie de façon neutre
mm-hmm.
et claire.
Mm-hmm.
L'extrême gauche et l'extrême droite sont assez présents, mais avec beaucoup de biais du coup dans l'explication. Et Le Monde, à l'époque, par exemple, ne faisait que numériser son journal papier.
Ouais. Mmh.
Donc, pour le web, c'était illisible et pas très intéressant.
Mmh.
Donc, on se dit, il faut qu'on explique ces sujets de façon simple dans des vidéos de 3 minutes, parce que 3 minutes, c'est à peu près le temps d'attention que tu as sur une vidéo pédagogique.
Ouais.
Et qu'on les partage au grand public. Donc, on fait 2 premières vidéos sur la crise médiatique et sur la dette publique et l'explication de la perte du 3e.
D'accord.
Sous cette format de vidéo dessinée avec une petite main qui explique le truc
ouais.
et une voix off.
Mm-hmm.
On les monte, les gens disent « Oh putain, c'est trop cool, on est les premiers en France à faire ces vidéos-là » qu'on copie hein, clairement sur un truc américain.
Ouais.
Et on dit faut... « Au niveau viralisation, il faut qu'on les pousse. » Et c'est pas sur mon petit Facebook à moi et en les mettant sur YouTube qu'on va trouver une audience très intéressante.
Mm-hmm.
Du coup, on va les proposer à des médias grand public en leur disant on leur dit, on fait une par mois gratuitement, on fait ça toujours avec des experts. Mmh. Potentiellement, on a un droit de veto si vous trouvez que la vidéo est orientée, mais ça, on n'a pas trop de risques parce qu'on fait toujours avec des experts neutres. Mmh. En tout cas, le plus possible. Et de toute façon, on ne donne pas de solution. On cherche juste à expliquer le problème pour que les gens... parce que les élections de 2012 allaient arriver, pour que les gens choisissent un président ou un parti en fonction des propositions ou des solutions qu'ils proposent aux problèmes économiques, et non pas en fonction de la magie qu'ils proposent et qui en fait correspond à aucun problème ou qui ne répond pas au problème. On envoie ça à 20 minutes, Capital, Alternative Économique, Figaro,
ouais.
Challenge, tous les magazines web existants, et Le Monde aussi, évidemment. Le seul qui nous répond, c'est Le Monde.
D'accord.
Et qui nous dit...
c'est plutôt cool comme retour ouais, unique. Ouais.
On est partant.
Ok.
Oh, mais nous, c'était le rêve, t'imagines même pas. Quand le 24 février 2012, la vidéo est apparue en une du monde.fr, on est chialé tellement j'étais fier. Quoi.
Ouais, tu m'étonnes. Ouais.
Et sur les vidéos, au départ, il n'y avait pas notre nom. Parce qu'on ne voulait pas que ça passe. On voulait surtout pas que les gens se disent ils font ça pour se faire connaître.
Ouais, en marque blanche complète. Quoi. Okay.
Sauf qu'au bout de 4 ou 5 vidéos... tout le monde félicitait Le Monde sur Twitter, tout le monde s'emballait en disant mais c'est génial, enfin Le Monde arrive à se mettre au niveau de son public et explique les choses de façon originale.
C'est quoi le titre de la vidéo qu'on peut retrouver aujourd'hui?
Pardon?
Le titre de ta vidéo, c'est... on peut la retrouver aujourd'hui sur YouTube?
Ça s'appelle Dessine-moi l'écho.
Ok. Ah mais oui, c'est très connu. Enfin, c'est très connu pour ceux qui...
Bah, assez connu parce que finalement les enseignants... Alors, pareil, l'Éducation nationale, on l'avait envoyé et ils nous ont dit... C'est pas un moyen noble d'apprendre. Mmh. Donc, du coup, ils ont refusé de les valider, entre guillemets.
Ouais.
Sauf que tous les enseignants d'éco les utilisent et qu'aujourd'hui, elles sont dans tous les manuels d'économie.
Ouais.
Parce que licence Creative Commons, elles sont gratuites. Elles peuvent être utilisées dans le cadre de l'enseignement gratuitement, sans demander quoi que ce soit. Et du coup, elles ont été beaucoup, beaucoup reprises. C'est plus de 50 millions de vues dans le monde francophone. Et c'est une des ressources pour réviser l'économie au bac, quoi.
Et le dessinateur, c'était qui?
enfin, au départ, c'est Loïc qu'on filmait parce qu'il avait des grands bras et donc du coup, on faisait vraiment du dessin en temps réel.
Ouais.
Et du coup, c'était une journée de dessin et de tournage parce que bah, tu rates, tu bafouilles, tu machins. Enfin. Et après, beaucoup de montage derrière pour accélérer le truc, que ça fasse plus que 3 minutes et que ce soit fluide.
Ouais.
Sauf que du coup, ça veut dire que le moindre changement, la moindre virgule, le moindre, t'as fait une casquette, mais en fait, il fallait faire un béret.
Ah oui.
Bah, faut que tu retournes toute la vidéo.
Oh non, ah oui, d'accord.
C'est assez l'enfer. Mmh. Et au bout d'une dizaine de vidéos, mais vous le verrez sur le site destimoileco.com, le changement de technique, on a photographié des mains, on a une banque de mains hallucinante. Et maintenant, c'est du dessin Illustrator qu'on passe après en After Effects et on colle la main par-dessus.
Bah oui.
Donc, ce n'est plus du temps réel. Réellement, mais du coup, ça nous permet de faire les modifications qu'on veut si besoin, et ça permet d'être un peu plus souple, voire même d'animer le dessin à l'écran, parce que quand c'était filmé, c'était fixe, on pouvait pas bouger.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est.
Et ça, c'est vraiment ce produit-là, cette diffusion. Donc derrière, on a commencé à mettre notre nom dessus, on a créé la marque Dessine-moi l'écho.
Ouais.
Ça nous a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de leads, de gens qui ont dit waouh, vous êtes capable d'expliquer la création monétaire en 3 minutes. Mmh. Non mais les gars, moi j'ai une stratégie dans ma grosse boîte que personne ne comprend, aidez-moi à la rendre compréhensible. Mmh. Et du coup, on a eu beaucoup d'appels comme ça, de boîtes qui ont dit cette façon d'expliquer nous plaît.
Et on est toujours vers 2011-2012, c'est ça?
Ouais, mais ça prend pas tout de suite. Enfin, le temps que les gens le voient, l'intègrent et le mettent dans leur stratégie de communication ou d'explication, on commence à voir les premiers effets fin 2013.
D'accord.
Et là, la boîte produit beaucoup de vidéos, grandit bien. Enfin, peut-être mi-2013. Mais ce qui justifie un peu, moi, mon manque d'intérêt tout d'un coup pour la boîte, c'est qu'à partir de mi-2013, les clients commencent à appeler en disant « On adore ce que vous faites, on veut bosser avec vous. Mm-hmm. » Et moi, dans la phase commerciale, ce qui me plaît, c'est quand le client me tourne le dos, qu'il ne veut pas me rencontrer, que j'arrive à l'intéresser d'une façon ou d'une autre pour qu'il se retourne et qu'il me dit viens me voir. J'aime convaincre. Si le client est déjà convaincu avant même de me rencontrer, ça m'amuse un peu moins. Je trouve ça un peu plus répétitif, un peu moins challengeant au niveau intellectuel. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu de ma propre boîte à ce moment-là, bizarrement, quand ça a commencé à marcher. Parce que, du coup, moi, je pars en 2014, et si je dis pas de bêtises, en 2014, on a fait 900 000 euros de chiffre d'affaires. La boîte, en gros, a fait 100, 200, 300, 500, 600, 900. Et moi, je pars au bon, ça fait 900. Aujourd'hui, elle fait 1,6 million à peu près, 5 ans après. Et je pars pour Créteil à ce moment-là, en fait.
Pour
Parce que bah,
créer
je m'ennuie, je veux un
Tilki,
peu. Mais du coup, qui n'a rien à voir, strictement rien à voir. Chez Sido, on avait quand même déjà un CRM, ça me paraissait évident. Alors,
Oui.
pareil, ça peut faire sourire aujourd'hui en 2019, dire j'avais déjà un CRM et de m'en gargariser. J'ai démarré Sido en 2009. Et en 2009, ça n'existait pas les CRM. Alors, j'étais sur Pipedrive à l'époque, avec celle-ci pour la partie facturation, celle-ci qui est devenue un CRM aujourd'hui, qui est très bien, c'est un
Bah
CRM français.
oui, Frenchy,
Ouais, de La Rochelle. Et beaucoup d'outils pour diffuser sur les réseaux sociaux, du coup, nos productions. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil à l'époque? Pas grand-chose encore. On n'est pas encore très équipé. C'est pas une boîte très numérique, si dans l'idée. Les outils qui font que ça marche. Encore que, si, bon, aujourd'hui, il y a Slack, il y a beaucoup de livres blancs. Il y a, quand les mecs mettent leur email perso, on va chercher leur fiche LinkedIn qui correspond. Enfin, on a quand même mis en place des outils, mais.
Bah, sur les boîtes collaboratives aujourd'hui, enfin, pardon, sur les boîtes qui font du conseil en pédagogie, ah, c'est vrai qu'il y a plein d'outils collaboratifs qui ont vu le jour depuis ouais, 3 à 5 ans, peut-être 3 ans, qui, avec un fort usage, enfin, je pense à tout, les Kahoot, les Klaxoon, tu sais, tous ces trucs-là qui permettent de faire de l'intelligence collective un peu en temps réel. Donc, ça
Ouais,
doit aider pas mal, je pense, ces boîtes-là.
il y a Socrative aussi, il y a... moi j'aime beaucoup
Socrative, tiens, je connais
Picker. Picker aussi qui est génial, qui est
ça.
tu imprimes des QR codes
Ouais.
que tu donnes aux gens dans la salle de formation, tes apprenants,
Ouais.
et en fonction du sens où ils diffusent la page, toi tu es
Ouais.
avec ton smartphone, tu prends en photo la classe, et en fonction de. Ils ont du coup c'est ABCD en fonction du côté qu'ils montrent, mais ça
Ouais.
te donne en live les réponses de tout le monde. Donc zéro tech pour les gens dans la salle, pas besoin de smartphone, pas besoin d'ordi.
Ouais.
Il y a juste toi qui as besoin d'avoir la 4G pour que ça traite l'image. Et en live, ça apparaît à l'écran, les résultats apparaissent à l'écran.
Ça s'appelle
Franchement, l'outil est assez magnifique.
Picker, c'est ça?
Plickers,
Ok.
Plickers. Alors je sais pas si ça existe encore et comment ça marche, mais en tout cas, j'utilisais moi il y a 5 ans et c'était assez magique.
D'accord. Super.
Donc oui, là pour la formation, dans le cadre de notre activité à nous, on n'utilisait pas grand-chose, mais pour la formation, on a commencé en plus en 2012-2013 à écrire un magazine en ligne qui s'appelle Sidologie, Sidologie, pour présenter toutes les innovations pédagogiques en termes d'outils. Et on s'est mis à tester bah, justement les 360 Learning, les Klaxoon, les Woonote,
Ouais.
Projet Voltaire, beaucoup les outils aussi pour faire des vidéos. Les outils pour faire des infographies en ligne. Alors, il n'y avait pas Canva à l'époque, c'était
Ouais.
Infogrames et un autre. Et on s'est mis à tous tester, dire avantages, inconvénients, dans quel cas on peut les utiliser et quel intérêt ils vont avoir pour l'apprentissage.
Oui.
Donc voilà, donc oui, on était pas de nous-mêmes pas très outillés, mais on testait
Ouais,
énormément de
vous
choses
testiez énormément
et on
de.
partageait nos infos. Et Tilki naît chez Sido. D'ailleurs, c'est mon copain Thomas en fait, qui a imaginé Tilki.
Ah oui.
Qui était de l'époque, qui est parti et qui est revenu, à qui je demande une solution en 2013
Oui.
pour partager des PDF avec beaucoup d'images, donc lourds. Faut imaginer qu'en 2013, il y a 6 ans, les boîtes mail des grosses entreprises étaient bloquées à 5 mégas
Oui.
en plaisante.
Oui, ça coûtait cher en
Et du
plus.
coup, et ça coûtait cher. Du coup, bah, fallait trouver un autre moyen pour faire du léger, sauf que faire du léger quand tu vends du graphisme, c'est dur. Et moi, je ne voulais pas de WeTransfer parce que je ne voulais pas envoyer mon document au client. Et surtout, je ne voulais pas qu'il récupère mes références ou qu'il récupère la vidéo du concurrent.
Ouais.
Donc, je lui ai dit, je me trouve une solution pour partager des Propal ultra quali et pour partager les vidéos que je vais faire que j'ai déjà faites pour les concurrents pour leur montrer que je connais leur marché.
Ouais.
Mais je ne veux pas qu'ils puissent télécharger les documents que je lui envoie.
Ah oui, OK.
Voilà mon brief. Il tourne, il cherche, il ne trouve pas. Il me crée un sous-domaine de notre site web avec un mot de passe pour accéder à la page, pour que tous nos prospects puissent aller. et il me bloque le téléchargement, il fige la page web pour que le prospect ne puisse pas faire quoi que ce soit dessus.
Ouais.
Donc voilà ce qu'il me produit pour, suite à ma demande. C'est super beau, c'est super quali.
Ouais.
On voit notre info monter un peu parce que le client est, trouve ça plus complet
D'accord.
et assez original par rapport aux concurrents. Et un jour, je suis en vacances, je regarde mon Google Analytics et je vois qu'il y a 3 visiteurs sur mon site web.
Mmh.
Bon, déjà 4 visiteurs sur mon Google Analytics en vacances, c'est un autre sujet.
Mmh.
Mais du coup, je vais voir sur quelle page ils sont. Et il y en a un qui est sur la fameuse page cachée derrière un mot de passe. Donc, je sais qui lit la page.
Ouais.
Et je prends mon téléphone et j'appelle mon client en disant « Bonjour, je viens me prendre des nouvelles.
Ouais.
Est-ce que vous avez bien compris le
mmh.
bah, ouais, ouais, bah, j'étais dessus il y a 5 minutes, Sylvain, et je suis désolé, je n'ai rien compris.
Ah.
J'ai la main à ce que je n'ai pas compris. » Et on est passé 2 heures au téléphone, ce que je lui présente la Propal en live, en fait, mmh. il était dispo à ce moment-là. Et à la fin, il fait « Putain, heureusement que tu m'as appelé, parce que bah, désolé, je t'avais éliminé. Hein. » En fait, c'est exactement ce que je veux, ce que tu proposes. C'est juste que c'était pas très clair ou j'ai pas compris comment il fallait.
Mmh.
Et tu tombes vraiment au bon moment. Donc, du coup, cool, on va signer ensemble.
Mmh. Énorme.
Et là, j'ai un dommage. Je dis, Tom, ton truc, c'est ouf. Il fait, ah, t'as vu, c'est beau. Hein. Je fais, non, je m'en fous. C'est juste que tu sais quand le mec s'y connecte. Du coup, maintenant, tu vas mettre une alerte. À chaque fois que le mot de passe est mis, tu m'envoies un mail pour me dire que le mec est sur, mon... sur la Propal.
Mmh.
Et comme ça, bah, en fonction de ce qu'il regarde, je l'appellerai. Et vous, ça a ultra bien marché. Franchement, dans Pipedrive, on avait un taux de transfo de 22%, on est passé à 28%. Et 6 points, pour nous, c'était important. Je l'ai mis en place chez 2-3 copains et ça a marché aussi.
Mmh.
Et je commence à pitcher le truc à droite, à gauche. Et d'ailleurs, tiens, l'autre origine,
ouais.
c'est le Blend Web Mix, qui est l'événement web à Lyon, organisé par le team du web, où ils ont fait un concours startup. On a postulé. Et on a passé les quarts finales, la demi-finale, on s'est retrouvé en finale à 3. Donc je crois qu'on finit deuxième ou troisième. Mais c'est pas grave, enfin, c'était déjà un énorme coup de projecteur.
Mm-hmm.
Et l'autre personne étonnante, je lui ai dit, hein, c'est Audrey Soussan,
oui.
qui était analyste financière, je pense, à l'époque, ou chargée de fonds.
Mm-hmm.
Elle n'était pas la stature qu'elle a aujourd'hui. Et qui me dit, Sylvain, ton truc, c'est assez ouf. Si tu fais ce que tu dis, c'est complètement dingue.
Oui.
Par contre, tant que t'es pas à plein temps dessus, tant que c'est un side project pour toi, ça marchera jamais.
Oui.
Un, tu seras pas financé, et deux, t'auras pas le temps de le développer comme il faut.
Hmm.
Donc voilà ma carte. Un jour, tu veux t'y mettre sérieusement, rappelle-moi. Et du coup, c'est un peu elle qui m'a donné envie d'y aller à 2000%.
Ouais. Et de pas
je lui dis, elle y croit, faut qu'on le fasse.
D'accord. Et c'est là où tu t'es dit, voilà, il faut que je sois full time, focus, et je quitte Sido.
C'est ça. Je trouve un associé Tim. Tech,
ouais.
qui lui aussi avait une boîte et qui me dit, moi, je suis prêt aussi à la quitter si on lève des fonds et si on fait un projet un peu ambitieux.
Et toi, juste en associé, tu le connaissais c'est une question qui revient souvent, c'est trouver un associé, c'est quand même la croix et la bannière. Donc, tu le connaissais, ce type
On s'était croisé... Bah, je faisais beaucoup, moi, Startup Weekend, j'étais beaucoup dans des
événements
entrepreneuriaux en général. Et on s'était croisé au CJD, Centre des jeunes dirigeants.
Ouais, ok, d'accord.
Qui est un beau réseau.
Ouais, qui est un beau réseau, ouais. Mm.
Pas business, mais pour
formation, tout ça.
Partager les problématiques du quotidien.
Mm, mm, mm.
Et on s'était croisé là-bas. Il m'avait remarqué sur ma folie marketing communication. Lui, il s'est mis dans sa propre boîte. Et il me dit, si tu me laisses carte blanche sur la partie tech, moi ça me dirait de bosser avec toi.
C'est énorme, ok.
On va faire un truc ensemble. Parce que du coup, j'ai commencé à dire à tout le monde, je cherche une équipe tech, je cherche un associé tech.
Mm-hmm.
Et grâce à un petit réseau Startup Weekend et autres, le mot est passé. Et il a entendu le mot, on s'est trouvé pour une bière. Et le premier truc, et d'ailleurs ce qui nous a sauvés dans notre association, parce qu'on a eu des moments durs,
mm-hmm.
C'est qu'on s'apprécie à titre perso.
Ah, donc ça c'est énorme, hein. Mm.
On aime passer un déj ensemble, on aime prendre une bière ensemble, on aime passer une soirée ensemble.
Mm.
Et il y a plein de trucs au niveau professionnel, on n'était pas d'accord.
Mm-hmm.
Sur le management, on n'était pas d'accord, on n'est pas à l'aise l'un vis-à-vis de l'autre, l'un avec l'autre.
Mm-hmm.
Pour autant, on s'aime bien et on a réussi à comprendre que c'était ça l'essentiel. Et on a sauvé notre association tout bêtement, alors le tips, en se faisant un déj par semaine sans objectif. Parfois c'est très pro sur des problématiques très du moment qu'il faut traiter, il faut qu'on tranche et qu'on se voit pas tant que ça finalement la semaine parce que la petite qui c'est 32 personnes donc on est submergé de boulot tout le temps et on a chacun nos équipes.
Mm-hmm.
on n'a pas le temps de se voir, et là c'est un moment off pour se parler, ou s'il n'y a rien de boulot, c'est se parler perso et se rappeler qu'on s'aime bien, tu vois, se rappeler, se parler de mes petits problèmes, quand je tire la gueule parce que j'ai des soucis de mon couple, ou je suis crevé, que j'ai vraiment besoin de vacances et que j'ai hâte de mes prochaines vacances qui arrivent dans une semaine. Mais des petits trucs cons qui permettent de comprendre les réactions de l'autre, les accepter. Ça justifie rien, mais au moins tu te dis, c'est pas contre moi que ce matin il faisait la gueule, c'est juste qu'il est crevé. Et ça nous a vraiment aidé, ce déjeuner hebdomadaire. Du coup, voilà, comme on se lance ensemble, bite et couteau en main, je ne veux pas refaire l'erreur de ma première boîte et où j'ai levé des fonds au bout de 3 ans, mais auprès de Business Angel, qu'on ne m'a pas mis tout l'argent que je voulais, qui en plus m'ont fait chier sur plein de trucs et ne m'ont pas apporté grand-chose. Mmh. Donc, on part pour lever des fonds auprès de fonds.
Ouais.
On a toute une ambition internationale. On sait qu'il nous faudra de l'argent, que le produit technique à monter, il est loin d'être simple.
Ah, c'est hyper intéressant. Votre orientation, je suis désolé de te couper, mais votre orientation, tu dis qu'elle a été tout de suite internationale, c'est ça ? Ce n'est pas un réflexe français. Enfin, ce n'est pas un réflexe des startups françaises. Enfin, d'une partie des startups françaises.
Ouais, c'est un gros défaut des startups françaises. Mais en fait, moi, c'est le défi international qui me plaît. On se rend compte que le marché français n'est pas ultra mature et qu'après, qu'on partage un doc en anglais, en allemand, en grec ou en français, la techno, c'est la même.
D'accord.
Et on se dit, du coup, pourquoi limiter ça aux Français ? Sauf que, très honnêtement, on est parti aux US un an après le lancement pour tester un peu le produit là-bas. Et premier voyage, on a compris qu'on avait fait un produit français par des Français pour des Français.
Ah.
L'autre grosse erreur qu'on fait en startup, c'est de bosser qu'entre Français.
Eh oui.
Là, on a découvert là-bas qu'une startup aux US, quand ils étaient 10, il y avait 3 Américains, un Français, un Polonais, un Irlandais, 2 Chinois, un Mexicain. Et tout de suite, ils avaient une vision mondiale.
Ouais, une richesse de point de vue. Ouais.
Et qui faisait un produit où ils ne mettaient pas le bouton au mauvais endroit pour les Chinois, qui était qu'en anglais, mais l'anglais était suffisant pour que ce soit utilisable par tout le monde. Et nous, par exemple, on l'a fait en français, on l'a réfléchi en français, on le traduit en anglais. Mais c'était, du coup, c'était traduit, pas adapté. Et il y a plein de choses qui se disent pas pareil, où il faut aller plus vite, où il faut prendre plus de temps. Enfin, en fait, c'est deux produits un peu différents à partir du moment où tu fais un français et un anglais. Donc ça a été grosse claque, et la deuxième grosse claque, pareil, ça va faire marrer tout le monde, mais n'oublions pas qu'on est mi-2015, donc c'est encore récent. Première question, les premières questions de tous nos prospects américains, c'est et vous avez une API, on est d'accord, on peut récupérer les data et les mettre dans notre CRM. Et on faut qu'on la fasse, on n'en est pas loin. Dégage, rappelle-moi le jour où t'as une API. Donc du coup, on est rentré en France, on se dit on va faire l'API. Qui était dans la roadmap, mais qui n'était pas urgentissime à l'époque dans notre tête. Parce qu'en France, on ne nous l'a jamais demandé avant. On commence à nous la demander depuis un an. Donc du coup, fin 2015, on a l'API, ce qui en France n'est pas du tout utile pour le marché français, mais va nous aider au niveau international. Donc ouais, vraiment grosse claque. Mais du coup, passionnant, parce que suite à ça, on a embauché une Anglaise, une Allemande et un Américain à Lyon qu'on a trouvé. Les deux filles, c'était des... Enfin non, l'Allemande, c'était la femme d'un Français. Elle parlait français très très bien, anglais parfaitement, mais elle trouvait pas de boulot parce que elle écrivait pas français assez bien. Mais franchement, Suzanne, c'est une pépite. Elle est toujours là 4 ans après. Une chance inouïe de l'avoir croisée. En plus, elle a accepté un salaire ridicule au début parce que de toute façon, elle trouvait pas de boulot, donc c'est ça ou rien. Et que nous, ça nous a changé la vie dans la boîte, de réfléchir un peu différemment grâce à elle. On a pris Kate de la même façon, qui elle était tombée amoureuse de la France, était traductrice français-anglais.
D'accord.
Ne trouvait pas de boulot. Et on l'a transformée en commerciale. Franchement, une nana incroyable aussi. Et voilà, ces deux premières recrues ont fait que la boîte a un peu changé, qu'on s'est obligé à parler un peu anglais, qu'on a commencé à rédiger nos newsletters en anglais avant de les traduire en français. Et que ça nous a vraiment fait évoluer énormément. Et ça, ce sera un conseil à toutes les startups qui nous écoutent. Embaucher des étrangers.
Ouais.
Enfin, si vous avez une ambition internationale, embaucher des étrangers, vous allez voir, c'est une expérience folle. Alors, dure. Première négociation de contrat avec Suzanne, l'enfer.
Pourquoi ? Parce que c'était le choc des cultures, non ?
Et les premiers mois avec elle, où Chez Tilki, c'était un peu le bordel, tout n'était pas écrit, tout n'était pas encore encadré, processé. Et pour elle, c'était inconcevable. Il y avait besoin d'avoir des validations pour tout, un peu plus à l'allemande, quoi, beaucoup plus carré,
Ouais.
et que nous, on ne le fait pas. Et ça a été assez compliqué pour elle, assez compliqué pour nous. Et elle posait des questions que. Parfois, j'avais l'impression qu'elle mettait en doute mon honnêteté ou mon management. En fait, c'est pas du tout ça, c'est que elle ne comprenait pas qu'on n'y réponde pas, parce que pour elle, c'est une question évidente à laquelle il faut répondre en Allemagne.
Ouais.
Mais du coup, c'est passionnant. À vivre, c'est incroyable. Donc voilà, l'aventure Tilki, on a des fonds qui nous accompagnent, qui nous font faire des erreurs un peu plus vite, mais qui nous font confiance aussi,
Oui.
qui nous permettent de pivoter d'un modèle où moi, le rêve à la base, c'était de faire un hunter.io-like,
Bah oui.
parce que je voulais faire un tout seul et où il n'y avait pas besoin de commercial vraiment. C'était que du web marketing. Et parce que l'outil n'était pas très dur à utiliser et qu'il était efficace rapidement. On s'est foiré. Marché inexistant en Europe sur ce segment-là. Et en plus, les petites boîtes ne mesurent rien. Donc je disais, moi, en tant que petite boîte, j'ai toujours eu un CRM. En Europe, les petites boîtes
Ouais,
n'en
c'est
ont
les
pas.
usages, ils sont différents.
Et du coup, quand tu comprends une transformation de mise en commande, tu n'as pas besoin de Tilki. Enfin, si tu sais pas que tu performes pas, que tu as plein de propals qui sont jamais lus, qui sont en plus, tu oublies de les relancer. Si tu t'en rends pas compte, bah c'est compliqué de te convaincre de prendre l'outil. Donc, on a changé un peu de
D'accord.
cible, et pas les grosses boîtes, mais avec plein d'autres attentes, pareil qu'on n'imaginait pas, de management. Donc, tel commercial, est-ce qu'il a le droit de voir les propals de tel autre? Est-ce que je peux lui supprimer moi les documents parce que je suis son manager? Enfin, il y a
Ah
des trucs qu'on
oui.
n'avait pas du tout imaginé en termes
D'usage.
d'arbre dedans, de pouvoir des utilisateurs. Et donc, avec un nouveau, enfin, beaucoup de fonctionnalités à créer et des besoins de dashboard, de reporting beaucoup plus complètes
D'accord.
pour les PME, ETI, grandes entreprises.
Ok. Et Tilki, aujourd'hui, bah toi, cette aventure-là, elle s'est. Tu es toujours dans la board, t'es complètement sorti du
Ouais, je suis
sujet.
toujours au bord, je suis
Ouais.
toujours actionnaire fort.
D'accord.
Je n'y suis plus opérationnel depuis début décembre. Ça
D'accord.
n'empêche que je continue à suivre les aventures avec plaisir.
Ok.
Mais voilà, je n'y travaille plus opérationnellement.
Ok, et eh ben nickel. Sur les outils, il y a une question qu'on pose, enfin que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'il y a sur la home screen de ton smartphone? Et quel est ton smartphone? Ça intéresse souvent aussi. Donc, est-ce que c'est un Apple, un Samsung, autre?
Un Apple que j'ai changé il y a un mois, j'étais sur un iPhone 5 dont j'étais très fier.
iPhone 5?
Là, je peux. Ouais.
Ah ouais. D'accord.
Je ne veux pas trop travailler sur mon téléphone.
Ouais.
Honnêtement.
Ouais. Alors,
Et du coup, pour moi,
la question, c'est deux, trois apps qui tu vois, qui sont que tu utilises un peu régulièrement et voilà, qui sont un peu originales.
Alors, pour tout dire, je n'ai plus de mail sur mon téléphone.
Ah ouais?
Je reçois pas mes mails. Je n'ai pas Facebook. Et je n'ai
Ouais.
pas Twitter.
Et pas Facebook, c'est que t'as jamais eu Facebook ou que t'as dégagé Facebook en résolution 2020?
J'ai dégagé Facebook en résolution fin 2018 où je passais ma vie sur mon
Ah la
téléphone.
vache, ah oui, d'accord, ok. Ouais.
Enfin, pas Facebook, c'était les mails, hein,
Ouais.
plutôt, où je passais ma vie à regarder mes mails. J'ai pas Slack non plus sur mon téléphone,
Ouais.
parce que je passais mon temps à suivre les Slack, à suivre mes mails,
Ouais.
et je ne profitais jamais de la vie. J'ai besoin, je suis complètement addict à ces notifications instantanées, et envie de savoir ce qui se passait tout le temps. Alors, pas pour une idée de contrôle, mais juste pour comprendre ce qui se passe, pour rien rater.
Oui.
FOMO, Fear of Missing Out. Et
Le faux mot.
du coup. J'ai tout supprimé pour devenir moins dépendant de mon téléphone.
Donc complètement en mode asynchrone et maîtrise de ta life et voilà quoi. Ok.
Un peu plus, ouais. Un peu plus. Ça n'empêche que je suis quand même beaucoup dessus, mais.
Mais t'as LinkedIn, rassure-moi.
Je l'ai enlevé pendant 8 mois, là je l'ai remis,
Ok.
mais j'avais enlevé pendant 8 mois.
WhatsApp.
WhatsApp, quand même, oui.
Ouais.
WhatsApp et SMS, évidemment. Qu'est-ce que j'ai de marrant? Après, moi, j'utilise beaucoup société.com. J'adore me renseigner sur les boîtes que je
Ah,
fréquente.
bien sûr.
J'adore voir l'histoire qu'il y a racontée dans leurs chiffres. Donc, c'est un vrai réflexe. J'ai Revolut parce que je suis amoureux de cette carte bancaire qui me dit ce qui se passe en live, qui me permet de changer mon code si j'ai envie de changer mon code, qui me permet de changer de la monnaie très simplement, qui me permet de recommander une carte en un clic, et qui me permet de voir ce que j'y pense en fait en live.
Ouais, c'est énorme, c'est néobanque de...
Que je trouve très très simple et je n'utilise que ça. Genji pour mes notes de frais.
Genji.
D'accord. Ça récupère tout dessus et ça me fait gagner un temps fou et ça m'évite de les perdre.
D'accord.
MyMark, qui est un truc qui se lance dont je suis complètement fan.
Ouais.
MyMark, Strava, parce que on va dire que ça va te perdre.
Ouais.
Strava, parce que je fais pas mal de sport et mon défi 2020, c'est de faire un Ironman en juin.
Ah.
Donc auquel je suis inscrit. Je prépare ça pas mal.
D'accord.
Par contre, je veux dire un gros effort sportif, ça veut dire aussi un gros effort pour le corps.
Bah oui.
Et c'est un copain qui a lancé ça. C'est une solution pour faire une prise de sang à la maison.
Mmh.
Tu fais juste une petite goutte au bout de ton doigt, t'envoies ça et sous 3 jours, tu as tous tes résultats de façon très jolie, très simple.
Mmh.
Et où tu peux dire, moi, je suis grand sportif en ce moment.
Mmh.
Donc, je veux suivre les caractéristiques qui montrent que je vais pas bien ou qu'il faut que je prenne des vitamines pour aller mieux, pour récupérer plus vite, ce genre de choses.
Mmh.
Et du coup, en fonction de ton profil, ça te donne des conseils de ce qu'il faut que tu manges ou ce qu'il faut que tu fasses.
Bah en fait, c'est Theranos. C'est la start-up.
C'est un peu Theranos, ouais. Mais en réel et en bien, et sans le bullshit qu'il y a derrière.
Ouais, en vrai, ouais.
En vrai. Et non, c'est un peu ça. Et en fait, un autre truc, c'est que je vais être très très peu chez le médecin parce que je suis jamais malade ou que je m'écoute pas au moment où je suis malade. Et que dans le sang, on peut voir beaucoup beaucoup de choses. Et ça, je suis assez convaincu. Et que si je vois que je bois trop d'alcool et que je vois que mon foie il souffre ou que je mange trop gras et que j'ai la glycémie qui monte,
mm-hmm.
Voir régulièrement, en fait, naturellement, je vais faire attention.
C'est quoi le nom de l'application dont tu parles, enfin du service?
MyMark, MyMark.
D'accord, ok.
Si tu le vois au quotidien, bah, du coup, tu changes ton...
Bah oui, complètement.
Tu le vois tous les 2 mois, tu changes ton comportement plutôt que tous les 5 ans. Ou tous les 5 ans, bah, quand on te dit que... t'es un gros lard et que tes veines elles vont passer le sang, bah, c'est un peu tard quoi.
Bah oui, c'est ça, c'est que non, mais c'est clair que c'est de l'avoir des prises de température entre guillemets très régulières. C'est de toute façon c'est ce que fait le médecin, hein. Quand tu vas le voir, la première chose qu'il te fait, c'est... Moi, je connaissais pas ce principe de... Enfin, j'avais pas que c'était... Et il faut pas une ordonnance pour ça, non? C'est...
Non.
Ok.
Pas besoin. Bah, par contre, c'est pas remboursé, hein, mais...
Oui, bah oui, ok. Ok.
Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Et dernière app, CityScoot.
Ouais.
Parce que je déteste Paris.
Hey,
mais
comme un bon lyonnais, je respecte.
Je suis banlieusard parisien à la base pourtant, mais ce qui fait que j'ai pas aimé pas trop Paris. Parce que c'était très loin pour moi, très inaccessible, très très cher. Et c'est la grande ville qui me faisait rêver, mais à laquelle j'avais pas accès à l'époque.
Quel département de la banlieue?
J'ai fait mon collège à Noisy-le-Grand. Ouais. Et j'habitais à côté de Pont au Congo, donc 93, 77, 94.
Ah ouais, donc t'as bien évolué. Voilà. Un vrai banlieusard, ouais, ok.
Voilà. Et où à l'époque, il n'y avait pas de RERE.
Ah bah oui.
Et du coup, le RERA, Noisy-le-Grand, et c'était l'enfer, c'était loin, c'était long. Pas très marrant. Du coup, je ne suis pas très fan de Paris. En plus, c'est des journées longues, dures, plein de rendez-vous, ça court dans tous les sens. Les Parisiens font tout le temps la gueule, il pleut tout le temps, enfin voilà.
Oh, les Lyonnais quand même un peu aussi, non? J'imagine, non?
Oui.
Ah, attends, arrête. CityScoot, c'est ça? CityScoot,
je suis dessus. Et je suis motard à la base, mais je fais plus de moto, parce qu'en ville, ça n'a pas de sens.
Ouais.
Et mon plaisir, Paris, je suis content de venir à Paris maintenant, parce que je sais que je vais prendre un CityScoot.
D'accord.
Et que du coup, j'ai, entre tous mes rendez-vous, j'ai une demi-heure maximum.
Mm-hmm.
Qui soit l'un à la Défense et l'autre à Nation, je sais que ce sera une demi-heure, même si je ne prends pas le métro.
Mm-hmm.
Donc, ou des trucs beaucoup plus compliqués.
Mmh.
J'ai pas de... Je suis vachement libre.
D'accord.
Je sais que bouchon, bas bouchon, je suis en scoot, ça passe. J'ai jamais eu un souci de sécurité technique sur le CityScoot.
Ouais.
Je sais que le truc, il est clean, que ça roule, ça avance et voilà.
Mais c'est pas électrique, hein. C'est thermique.
C'est électrique.
C'est électrique, ouais. D'accord, oui. Bah... En plus. Ah ouais.
Et ça coûte... c'est 25 centimes ou 30 centimes la minute.
D'accord.
Donc ouais, tu fais le tour de Paris en 30 minutes, donc pour 9 euros, t'as fait le tour de Paris, et t'as pas de bouchon, t'as pas tout ça, et je suis fan.
Oh,
et cool. Ça, c'est vraiment indispensable. Si t'es passé à Paris, je suis malheureux.
faut que ça aille vite. Bah oui, non, mais c'est sûr. Ok, donc ça, c'est t'es la dernière app de ta home screen. Est-ce que tu lis et est-ce que tu as des bouquins qui en ce moment t'ont marqué, que tu recommanderais?
Ouais, c'est le bouquin des vacances. Je suis parti en Namibie.
Namibie le... Ah ouais, ça c'est... Oh, c'est énorme.
C'est extraordinaire. Mais énormément de préjugés sur ce pays.
D'accord.
Parce que l'Afrique.
Ouais, ouais.
Parce que j'ai déjà fait Mozambique, Afrique du Sud et Madagascar.
Ok, tu voyages pas mal. Ouais.
Pas du tout ça comme ça. En fait, c'est un pays assez riche, assez développé, qui tourne plutôt bien. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mendicité.
Mm-hmm.
Tu peux boire l'eau du robinet.
Oh. Mm-hmm. Mais c'est la Namibie, c'est quoi? Il y a un désert de taré là-bas. Enfin, si je me rappelle les photos de National Geographic sur lesquelles je tombais quand j'avais 13 ans, c'est magnifique.
Ce ne sont que des déserts. Ouais. C'est une fois et demi grand comme la France et il y a 2 millions d'habitants.
Ah ouais.
Pour te dire la densité des trucs.
D'accord.
Donc la première classe de me dire merde en fait, mais je suis vraiment qu'un gros con d'Européen de penser que tous les pays sont sous-développés et qu'on est le seul pays développé. Parce que honnêtement, entre Windhoek et une ville de province française, il n'y a pas une différence folle.
D'accord.
Entre la capitale Windhoek.
Mmh.
Et deuxième chose, j'ai en plus pris le bouquin pendant ces vacances, j'avais un bon gros polar, très sympa.
D'accord.
La grippe de Don Winslow qui explique la guerre... anti-drogue menée par les États-Unis des années 60 à aujourd'hui.
Ouais.
Passionnant. Tous les paradoxes et contradictions qu'ils ont pu faire, où parfois ils ont armé des milices d'extrême droite pour lutter contre le communisme, et du coup les milices d'extrême droite avaient le droit d'envoyer la drogue pour autant. Enfin,
c'est pas l'époque de la French Connection, ça, toute cette histoire avec la lien de la drogue, je sais pas si c'est bien l'époque, mais ok, d'accord.
Mais c'est beaucoup les relations avec les cartels mexicains. Et
ah oui, ok. Mm-hmm.
Assez passionnant de son historique, mais en plus avec un bon polar derrière. Voilà. Et un deuxième fou qu'il faut impérativement que vous lisiez si vous ne l'avez pas encore lu, qui est Factfulness de Hans Rosling, un Suédois, et de sa fille et de son beau-fils, qui sont des Rosling aussi.
Ouais. Parle de quoi ?
Sur les data du monde dans lequel on vit.
Les data ?
Sur les chiffres. Ouais. Ouais. Sur les vrais chiffres. Et d'ailleurs, du coup, vous pouvez, si vous n'êtes pas complètement convaincu, aller faire un tour. Tu mettras en commentaire. Il a un questionnaire de 13 questions.
Ouais.
Avant de démarrer le bouquin, pour voir où t'en es de la connaissance du monde.
D'accord.
Et très honnêtement, j'ai l'impression de beaucoup suivre la presse, de beaucoup m'intéresser aux chiffres. J'ai beaucoup de gars sur Twitter que je suis parce qu'ils débunkent des sujets et que j'adore ça. D'accord. J'adore la science clinique, j'adore la science en général, et surtout quand elle est adaptée au monde d'aujourd'hui.
Oui.
Et j'ai pris une énorme claque en répondant à ces questions, en découvrant que j'avais une vision très 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 erronée du monde, qu'on m'a appris le monde des années 20 à 60, 1920-1960.
Ah ouais, d'accord.
Sauf qu'on est en 2000. Et que j'ai pas du tout mis à jour mes données personnelles sur le monde.
Ouais, c'est ce qu'ils disent à l'issue du questionnaire. Ils disent tu es un mec qui vit dans les années 60. Quoi.
C'est ça à peu près.
Ok.
Mais une question bête, tiens, je vais te la poser à toi. Hein.
Ouais.
Dans le monde, quel est le pourcentage des enfants qui sont vaccinés? Est-ce 40%, 60% ou 80%?
40, je dirais.
80.
Ah ouais.
80% des gosses dans le monde sont vaccinés pour les grandes maladies qui existent.
Ah, c'est marrant parce que moi je me disais pays occidentaux, ça représente pas le monde entier. Et... Ouais.
Ouais, ouais. C'est mon réflexe. Du coup, déjà, parler de pays occidentaux et de pays développés, c'est une connerie.
Ouais.
Donc, s'il explique donc bien avec des chiffres aussi, aujourd'hui il y a 4 mondes, il n'y a pas que 2, il n'y a pas sous-développé, développé.
Bah oui.
Sinon, il n'y aurait que 14 pays qui seraient considérés sous-développés. Mmh. Tout le reste serait considéré comme développé quasiment. Mmh. Il explique tout ça, il explique les datas qu'il faut choisir.
Mmh.
Et alors, je vous le recommande plutôt en anglais qu'en français, parce qu'il est assez mal traduit et assez désagréable à lire.
D'accord.
Pour autant, ça se lit, c'est pas l'essentiel, les mots.
Ouais.
L'essentiel, c'est le fond du truc.
Okay.
Il a créé en plus pas mal d'outils pédagogiques pour utiliser ses chiffres au quotidien et informer ses collègues, ses apprenants, etc.
Mmh.
Notamment, Gapminder.org et dollarstreet.org, qui sont aussi très bien. Et ça m'a donné vraiment envie de continuer à apprendre des choses sur ces sujets-là et de mieux comprendre le monde qui m'entoure, parce que même en termes de décision parfois de dans quel pays tu vas partir pour te développer, bon, bah, traditionnellement, en français, on va partir en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. Bah, parfois, il y a d'autres où ça pourrait être plus intéressant, qui sont plus en investissement technologique pour avancer et qui ont même un usage du smartphone ou un usage de l'ordinateur meilleur que ce qui se fait en Espagne. Et que j'ai pas toutes ces clés-là en fait pour choisir moi où je veux aller et comment je veux y aller.
Tu peux me rappeler le titre? Tu peux juste le rappeler?
Factfulness.
Factfulness.
Donc la prise de décision à partir des faits ou des chiffres.
Super, super reco, ok.
Donc ouais, vraiment bouquin qui m'a un peu retourné, où j'ai envie de progresser là-dessus, j'ai un peu de temps en ce moment. Et il y a un des autres objectifs de l'année, outre l'Ironman, c'est aussi progresser sur la prise de parole en public. J'ai eu la chance d'être speaker sur un TEDx en novembre 2019.
Oui.
Et aventure incroyable.
Ah oui.
De se retrouver sur scène face à 100 personnes, d'avoir 12 minutes. D'avoir 12 minutes pour transmettre un ou deux messages.
Ouais.
Il y a vraiment des techniques pour le faire. Donc, il faut certes avoir du fond, raconter quelque chose d'intéressant.
Ouais.
Mais j'ai vraiment envie de progresser aussi sur la technique pour être capable de partager un sujet qui me passionne avec encore plus d'impact. Voilà, un des autres défis.
D'accord. Et est-ce que tu lis des blogs? Est-ce que tu es abonné à des newsletters un peu particulières?
Je lis Tech Trash.
Ah oui, ça c'est très drôle ça. Ouais.
Assez fan, et plus dans un côté autodérision, hein, parce que je suis à fond dans le prototype du mec qui dénonce.
Ouais.
Sur Twitter, je vais adorer Disruptive All-In,
ouais.
Qui est un fil qui trash tous les connards de LinkedIn dont je fais partie.
Ouais.
Enfin, qui montre les abus ou les fausses histoires ou tous les trucs inspirants de merde et qui sont complètement bullshit et qui du coup c'est marrant. Par contre, je lis la newsletter de Bruno Friedlanski, qui est pour moi un des seuls scientifiques français de LinkedIn, enfin un des seuls gars qui s'intéresse vraiment à l'algo, comment il fonctionne. D'accord. Comment on l'améliore, comment on s'améliore soi, et qui a un usage de LinkedIn non automatisé, non gross hacké, non...
D'accord.
Non fake. Du coup, qui ne cherche pas autant la gloire à titre perso, mais qui a pour moi le meilleur usage en France de LinkedIn. Enfin,
okay.
On dirait ça dépend quel est l'objectif, évidemment, mais qui a le mieux compris comment faire LinkedIn. Donc, en suivant ces newsletters, ça permet de pas mal progresser.
Okay.
J'ai comme autre newsletter que j'aime bien. Je fais beaucoup ma veille sur LinkedIn et sur Twitter. Hein. J'ai quelques comptes auxquels je suis abonné, très très peu, mais c'est pour. Mais je suis réellement tous les jours ce qui se raconte dessus.
T'as des listes sur Twitter?
Non, j'ai pas de liste. Je suis abonné qu'à 200 personnes. 360, pardon. 360 personnes. Donc, du coup, dans la journée, j'arrive à voir ce que tous disent. Et c'est vraiment, je les ai choisis. Alors, après, il y a un peu de foot, un peu de pédagogique, un peu d'innovation sales marketing, un peu d'actu et quelques débunkers. Je vais retrouver son nom. Un mec extraordinaire qui raconte en plus des histoires à la base, des trucs historiques qui sont géniaux,
ouais.
Et qui débunk aussi des sujets. Par exemple, il a fait un thread que je trouvais assez intéressant sur la retraite par mutualisation et la retraite par capitalisation, qui explique en mutualisation combien d'argent tu mets de côté toi en tant que salarié,
ouais.
Et que si cet argent avait été placé en capitalisation pendant toute ta vie aussi. Il te montre les deux courbes de ce que tu peux toucher à la fin en utilisation et de ce que tu aurais pu toucher en capitalisation.
Ouais.
Ce qui est du coup un peu perturbant parfois, mais très intéressant.
C'est énorme.
Et du coup, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien.
Des chaînes YouTube, hein, par contre, tu regardes des... Enfin, j'ai...
Du tout. Ouais. Très peu.
Très peu, ouais. Des podcasts que tu écoutes un peu?
Grossmakers, un peu, ouais. Que j'aime bien. Ouais. Après, je démarre vraiment sur les podcasts parce que j'aime bien lire en fait quand je suis dans le Uber ou dans les transports en commun. Que je fais tout à vélo et que j'évite d'avoir un casque sur les oreilles quand je fais du vélo.
Ouais.
Que pendant que je cours, j'aime bien laisser mon esprit divaguer,
ouais.
et traiter pas mal de sujets et réfléchir à d'autres choses, mais sans m'obliger à suivre un truc intelligent. Donc non, j'écoute assez peu de podcasts parce que j'ai assez peu de moments pour les écouter.
Ouais, ouais.
Après, aussi, ils se sont énormément améliorés.
Ouais.
Les premiers podcasts il y a 3 ans, c'était un peu la tendance où tout le monde y allait. C'était chiant, c'était mal enregistré, on n'entendait pas la voix, c'était mal structuré. Maintenant, ça devient plus cool. Il y en a qui sont vraiment bien foutus, donc il faut que je m'en recherche quelques-uns, mais j'ai pas encore cherché. Je vous recommande, pour ceux qui ont des boîtes, l'avocat Timothée Lefebvre,
oui,
qui fait des threads sur le droit du travail.
D'accord.
Il a fait un patron sur peut-on interdire l'alcool au bureau. La réponse est non.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est
pas l'alcool d'avoir
de la bière, du vin,
ça, non,
et du cidre au bureau. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu n'as pas le droit de faire de tests d'alcoolémie comme ça, inopinés,
okay,
pour que tu préviennes.
Intéressant.
Enfin, du coup, assez intéressant de voir comment gérer ce sujet-là.
Ok.
Et celui que je recommande aussi, c'est Guillaume Niculo, qui est sous le pseudo Ordre Spontané,
oui,
qui fait des trades incroyables et historiques et économiques.
D'accord.
Ou par ailleurs, d'ailleurs, c'est lui un des premiers à avoir traité un des sujets de factfulness. Et d'après toi, quelle était la durée de vie en 1500?
25, 20, moyenne d'un homme, c'est ça la question? Moyenne,
ouais,
d'un homme, bah avant 30 ans, avant 30 ans.
Ça, c'était l'espérance de vie.
D'accord.
Parce que le taux de mortalité avant 5 ans était très, très, très élevé.
Ouais.
Plus les famines, plus les guerres, plus tout ça,
ouais,
l'espérance de vie était 30 ans. Enfin, la moyenne,
ouais,
était 30 ans.
Ouais, ouais.
La durée de vie, les gens vivaient déjà jusqu'à 70 ans, en fait.
D'accord, ouais. D'accord, oui, bah, y a une vraie différence entre la moyenne et puis l'espérance.
On n'a pas énormément repoussé la fin de vie de l'homme. On le voit depuis 100 ans, il n'y a pas de vieux qui durent 120 ans. En fait, on voit que ça, on est limité à maxi 115 ans quand tu es exceptionnel. On aura du mal à aller au-delà de 85 ans dans tous les cas. Malgré tous les problèmes de la science, malgré, nos cellules se détruisent et malheureusement, on mourra un jour. Et du coup, il avait fait un trade là-dessus assez passionnant de dire, attention, oui, on nous a appris 30 ans, mais en fait, c'est une personne qui naît. En fait, elle a une chance de vivre 30 ans, sauf qu'en fait, elle a une chance de vivre moins de 5 ans ou plus de 60 ans.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça qui est la vie de 30 ans. Et c'est assez perturbant, du coup. Enfin, j'avais trouvé ça passionnant.
Ouais.
Parce que pareil, j'avais appris un peu comme toi, où j'imaginais que les gens mourraient à 30 ans. Et c'est pour ça qu'ils faisaient des enfants très, très tôt, parce que fallait vite qu'ils aient des enfants. Pas du tout.
Ouais, ouais, ouais. Non, en fait, il y avait autant de chances de vivre plus vieux. Enfin, non, pas autant de chances, mais oui, oui, non, je vois le point. Bon, bah, écoute, c'est hyper riche. Plus d'une heure de podcast. Ça va être un petit marathon pour ceux qui nous écoutent, mais au contraire, ça a été super, super riche. Je te remercie. Je vais essayer de faire des show notes structurées pour qu'on puisse retrouver toutes ces infos rapidement. Merci Sylvain.
Merci à toi aussi.
Ouais.
Si tu ne retrouves pas les éléments, tu me dis, parce que moi je les ai sous la main et je te renvoie ça.
Ouais, c'est cool. Merci à toi. Et puis bah, je vous dis à bientôt à tous. Rendez-vous sur stackast.com. Inscrivez-vous à la newsletter pour être au courant de toute l'actualité, des nouveaux épisodes, des épisodes bonus, etc., etc. Je vous dis à bientôt. Ciao.
Ciao.